Journal d'Haïti et des Amériques, et c'est avec vous Anne Verdaguet, bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Direction la Pennsylvanie, aujourd'hui un état clé pour les élections américaines de novembre prochain que Donald Trump avait gagné tout juste lors de la précédente élection. Joe Biden, le candidat démocrate, a prononcé un discours de campagne hier sur place. Carlotta Morteo est allée à la rencontre d'une Amérique divisée. On vous parlera de cette décision de Donald Trump d'interrompre brutalement les négociations sur de nouvelles aides aux ménages et aux entreprises affectées par la pandémie de coronavirus. Alors de quelles aides s'agit-il? Marie Normand nous en dira plus dans la revue de presse. Et puis l'ouragan Delta qui a atteint les côtes du Mexique, affaibli mais tout de même avec des vents soufflant jusqu'à 175 km/h, du jamais vu depuis 15 ans. Aux États-Unis, deux jours après la sortie de Donald Trump de l'hôpital, le médecin de la Maison-Blanche a assuré que le président américain ne présentait plus aucun symptôme et qu'il continuait globalement à aller très bien. Mais autour de lui, les nouvelles sont alarmantes et un climat de panique règne à la Maison-Blanche. On en parle avec Marie Normand dans un instant. Mais en attendant, la campagne continue. Joe Biden était hier en déplacement en Pennsylvanie, d'où il a prononcé un discours dans un lieu chargé d'histoire, le champ de bataille de Gettysburg, bataille la plus sanglante de la guerre civile américaine qui a vu la victoire écrasante des États du Nord sur les États pro-esclavagistes du Sud. Tout un symbole pour un pays qui semble aujourd'hui déchiré et irréconciliable. C'est d'autant plus vrai en Pennsylvanie, un État crucial pour remporter le scrutin. Donald Trump avait gagné cet État dans un mouchoir de poche en 2016 avec seulement 44 000 voix d'avance. Un dossier signé Carlotta Morteo.
Je suis très inquiète de ce qu'il se passe tous les jours. On est très divisé, il n'y a aucune décence. La crise du Covid a été très mal gérée.
Poussette dans une main, cabas de course dans l'autre, Shoana est à l'image de nombreux électeurs démocrates cette année, dépités par le climat politique, par le Covid, et pessimistes quant à l'avenir de son pays si Donald Trump est réélu.
Ils cherchent à délégitimer Joe Biden en disant qu'il est lent, qu'il est vieux, qu'il est fragile. Non, il souffre de bégaiement, il n'est pas plus faible que le président Trump. Quand il était vice-président, il a bien travaillé, notamment avec Obamacare. J'y suis très favorable. Je ne vois pas ce que Donald Trump a fait pour résoudre les problèmes de ce monde. Il ne pense qu'à ce mur qu'il n'a pas réussi à construire alors qu'il a creusé le déficit de plusieurs milliards de dollars. Il faut que ça change et je crois que Joe Biden peut relancer les choses dans la bonne direction.
Shoana est commerciale pour une entreprise d'agroalimentaire. La politique ne l'a jamais trop intéressée, mais comme de nombreuses femmes diplômées des banlieues, après avoir voté républicain un peu par habitude familiale, elle s'est détournée de ce parti ces dernières années à cause du tempérament, du caractère de Donald Trump. Combien de femmes pourraient lui préférer cette année un Joe Biden parce qu'il leur semblerait plus présidentiable? C'est toute la question. Et à force de la poser, on a bien l'impression que l'élection cette année ressemble à un référendum pour ou contre Donald Trump. Danny est ouvrier dans le bâtiment.
Moi, je n'ai jamais supporté Donald Trump. Je pense qu'il aurait dû rester dans le business et ne jamais faire de politique. Sa réélection divise ma famille. Ma mère, mon frère et ma fille sont trumpistes, alors que ma femme et moi, non. C'est étonnant qu'on ne soit pas d'accord. On est tout le temps en train de débattre. Mais je pense que Donald Trump va gagner. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, en parlant aux gens, qu'il y a plus de monde qui va voter pour lui plutôt que pour Biden.
Dans les quartiers populaires de Philadelphie, Harrisburg ou Scranton, les pancartes pro-Trump ont en effet fleuri cette année. Le soutien est plus visible maintenant que les syndicats très proches des démocrates et autrefois puissants ont perdu un peu de leur influence à mesure que l'industrie du charbon s'est écroulée dans ces contrées, notamment sous la présidence Obama.
Je vais voter pour le parti écologiste parce que je ne supporte plus les deux partis, les deux mentent, il nous faut d'autres voix, d'autres points de vue.
Comme Elliot, 22 ans, il y a aussi ceux qui veulent faire la révolution verte ou socialiste, comme on dit. Mais la mobilisation de la jeunesse reste aléatoire. En 2016, lors de la dernière présidentielle, seuls 2 électeurs de moins de 30 ans sur 10 s'étaient rendus aux urnes. Mais la participation a doublé aux élections de demi-mandat il y a 2 ans et c'est une cohorte qui penche majoritairement vers la gauche. Alors, Même s'ils sont loin d'être emballés, certains, comme Steven, 27 ans, diplômé en sociologie mais employé par un hôtel, veulent donner raison au sondage qui donne Biden gagnant.
Je me considère plus progressiste que la moyenne des démocrates. Et je n'aime pas trop que Biden cherche à attirer vers lui des républicains. Je pense qu'il va devoir écouter la frange plus progressiste du Parti démocrate s'il veut maintenir le soutien des gens, parce que Bernie Sanders et Elizabeth Warren sont des voix qui portent. Ou même s'il veut juste faire en sorte que les États-Unis soient un pays plus heureux et moins divisé qu'à l'heure actuelle.
Divisé, voilà que le mot revient. Tout le monde a en tête les manifestations de Black Lives Matter qui ont secoué plusieurs villes du pays cette année. De ce point de vue-là, le Parti démocrate compte sur les voix des Afro-Américains, dans les villes toujours, mais là encore, on n'est plus sûr de rien. Cory, la quarantaine, est un ancien militaire afro-américain devenu peintre et il ne se fait aucune illusion.
Vous pensez que Joe Biden n'est pas soutenu par les suprémacistes blancs? Le white power, la supériorité des blancs, c'est un état de fait dans l'économie. Donc la question c'est, est-ce que tu veux un suprémaciste blanc qui s'affiche ou qui se cache? Ce sont les deux faces d'une même pièce. D'ailleurs, l'une des personnes responsables pour avoir massivement envoyé en prison des Afro-Américains se présente sur le ticket démocrate comme vice-présidente. C'est Kamala Harris.
Pour Becky, enseignante d'histoire, électrice républicaine, ce n'est pas Donald Trump qui divise le pays, mais le Parti démocrate et les médias qui attisent les tensions en racialisant les problèmes sociaux et à force d'appuyer là où ça fait mal.
Les démocrates ont encouragé les manifestations et les discours contre la police. J'ai lu le témoignage d'une femme, une démocrate, qui racontait qu'elle voulait aller voir comment ça se passait dans les meetings de Trump. Ses amis étaient terrifiés, lui disaient « n'y va pas, tu es folle, tu vas te faire attaquer ». Et puis elle y est allée, et elle a écrit un article qui disait que c'était sympa, qu'il y avait l'énergie d'un concert rock, que les gens étaient gentils. La semaine d'avant, elle était allée à un meeting de Biden, et elle avait trouvé ça déprimant. Tout ce qu'il disait, c'était « voilà ce qui ne va pas avec l'Amérique, regardez comme notre société va mal ». Et en sortant, elle se sentait accablée. Je ne crois pas que ce soit une bonne manière de procéder. Il faut encourager les gens à être meilleurs en leur donnant de l'espoir.
Becky vit dans une de ces zones rurales très riches en gaz naturel où une véritable ruée vers l'or est en cours. Soutenue par Donald Trump, les forages se multiplient en Pennsylvanie et relancent l'économie locale de certaines zones sinistrées. L'enthousiasme semble donc intact dans le camp du président américain malgré des sondages défavorables. Mais en Pennsylvanie, tout est encore possible, nous confirme Joanna Hopper, chercheuse en sciences politiques à l'université de Scranton.
Les deux partis pensent gagner. En vérité, chacun a sa chance. C'est peut-être l'élection la plus incertaine de tous les États-Unis.
Carlota Morteo sur les routes de la Pennsylvanie, RFI.
Voilà, on l'entendait à l'instant, une élection à l'issue incertaine, même si les sondages montrent une nette remontée de Joe Biden, qui est à présent 16 points devant Donald Trump, selon un dernier sondage CNN. Bonjour Marie Normand.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On vous retrouve pour la revue de presse des Amériques et on reste aux États-Unis pour parler de cette décision de Donald Trump qui pourrait devenir un enjeu de campagne. L'aide fédérale votée en mars dernier pour compenser les effets de la crise sanitaire expire ce mercredi soir et elle ne sera pas prolongée. Le président a en effet annoncé que les négociations entre démocrates et républicains sur un nouveau plan de relance étaient repoussées à après l'élection du 3 novembre. Ce coup de tonnerre a fait chuter Wall Street. Il portait sur quoi, Marie Normand, ce plan de relance?
Eh bien, c'est un nouveau plan d'aide, surtout destiné aux ménages et aux petites entreprises. Ce que le Wall Street Journal qualifie aujourd'hui de nouvelle explosion des dépenses. Un plan de 2 200 milliards de dollars avait, c'est vrai, déjà été voté en mars. Il a permis de mettre en place, par exemple, des aides supplémentaires pour les chômeurs, des prêts aux entreprises. Mais ces mesures expirent progressivement. Cela fait des mois que républicains et démocrates tentent de se mettre d'accord. Le point d'achoppement, surtout, Anne, c'est la demande d'aide des démocrates pour les États et pour les collectivités locales qui sont sur le point de réaliser de grosses coupes budgétaires.
Alors, comment réagit la presse à cet arrêt des négociations?
Alors, pour le Financial Times, Donald Trump sème la confusion parce qu'il a semblé revenir sur cette décision décision d'arrêt des négociations dans des tweets plus tard dans la soirée. En tout cas, de nombreux ménages et entreprises, des restaurants aux compagnies aériennes en passant par les hôtels, seront confrontés à de nouvelles difficultés financières dans les semaines à venir. Le Los Angeles Times souligne les inquiétudes du président de la Fed, la Banque centrale américaine, sa peur de voir augmenter les disparités déjà existantes si un nouveau plan de relance n'est pas validé. Ce serait tragique, dit-il. Tragique, un mot que les présidents de la Fed n'utilisent pas souvent, remarque le journal californien. Pour le Wall Street Journal, au contraire, cette rupture de négociation est la meilleure décision pour l'économie et pour les contribuables. Les représentants démocrates et leur présidente, Nancy Pelosi, refusaient toute enveloppe inférieure à 2 000 milliards de dollars. Et pour le journal, cela constitue une demande de rançon politique. Elle ne voulait pas risquer de donner à Trump ne serait-ce qu'un demi-crédit pour un projet de loi d'aide signé avant les élections. Selon le quotidien, la Maison-Blanche était déjà prête à débourser 1 600 milliards de dollars, soit déjà la moitié du budget fédéral il y a seulement quelques années. Les démocrates ont refusé une certaine idée du compromis, conclut le journal.
Et une décision prise au lendemain de la sortie de l'hôpital de Donald Trump, positif au coronavirus, tout comme 14 autres personnes travaillant à la Maison-Blanche ou dans le cercle rapproché du président. Son retour au travail dans l'aile ouest est donc un peu particulier, Marie.
Oui, une aile ouest vidée de ses conseillers eux-mêmes atteints du coronavirus ou à qui on a demandé de travailler à la maison par mesure de précaution, décrit le New York Times. À leur place, des personnes vêtues de combinaison de protection de la tête aux pieds qui désinfecte les parties communes. Même les membres du personnel de la résidence de la Maison-Blanche portent en ce moment des blouses jaunes, des masques chirurgicaux et des lunettes de protection jetables. Le coronavirus a aussi touché, je vous le rappelle, ces derniers jours de nombreux sénateurs, mais aussi le Pentagone.
Et c'est dans ce contexte, Marie, que se tient ce soir le débat des candidats à la vice-présidence. Mike Pence est face à Kamala Harris.
Et les deux équipes ont longuement négocié le renforcement des mesures de protection. Justement, Mike Pence a finalement accepté de débattre derrière une vitre en plexiglas, explique le Washington Post. Son équipe pense toujours qu'il n'y avait aucune raison d'en utiliser, mais elle a donné son accord si cela tranquillise Kamala Harris.
Et alors que la nation se prépare à ce nouveau débat, mesures de protection renforcées également pour les électeurs qui ont commencé à voter physiquement par anticipation. Hier, par exemple, dans l'Ohio, qui a la réputation d'être un baromètre, car depuis 1964, l'État a toujours élu le candidat qui allait devenir président. Alors si dans les zones rurales, les électeurs républicains se sont mobilisés, à Columbus, la capitale, ce sont les démocrates qui étaient bien représentés dans la file d'attente. C'est ce qu'a constaté Bruno Cabane, professeur d'histoire à l'Université d'État de l'Ohio.
Beaucoup de monde devant le Board of Election du Franklin County, c'est-à-dire en fait le comté de Columbus. Columbus, c'est à peu près 900 000 habitants. Il y a un seul endroit où on peut voter par avance. Et il y avait beaucoup de monde. Donc il y a vraiment une mobilisation assez forte d'électeurs qui sont manifestement plutôt des électeurs démocrates. Il y avait un stand de Trump qui était très isolé et la plupart même des personnes qui distribuaient des bulletins d'information autour du bureau de vote étaient des démocrates. Donc visiblement en tout cas, la présence des démocrates était beaucoup plus forte et on sentait bien qu'il y avait une forme de... J'allais dire presque de colère, parce que à la fois le débat et surtout le retour précipité de Donald Trump de l'hôpital de Walter Reed et sa mise en scène, le fait qu'il enlève son masque au balcon de la Maison Blanche, tout ça a beaucoup irrité les électeurs et on sent vraiment de la colère, non seulement de la détermination, mais vraiment de la colère. Donc beaucoup de monde et un scrutin qui est très bien organisé aussi pour l'épidémie de Covid, puisque les conditions de sécurité sont maximum. Ils ont créé des passe à l'intérieur même du bureau de vote pour que chaque électeur soit un peu isolé des autres. Et on distribue des petits stylets pour que les électeurs ne soient pas obligés de toucher l'écran de quel ils votent. Donc tout ça, une fois encore, est très très bien organisé.
Bruno Cabane, donc professeur d'histoire à l'Université d'État de l'Ohio, au micro de Muriel Paradon. On termine, Marie, avec l'ouragan Delta qui a touché terre tout à l'heure au Mexique. Il a été rétrogradé en catégorie 3 sur une échelle de 5, mais il reste dangereux.
Oui, avec des vents qui soufflent à 175 km/h tout de même. L'ouragan va balayer l'État de Quintana Roo, puis le Yucatan, deux États États qui sont en alerte rouge, écrit Larason. Delta a touché terre à Puerto Morelos, qui se trouve juste entre les deux célèbres stations balnéaires de Cancun et de Playa del Carmen. Dans cette ville, explique le journal, les habitants ont muré portes et fenêtres pour protéger leur maison. Milenio publie une photo partagée sur les réseaux sociaux, celle d'un hôtel de Cancun qui a aménagé une salle de réception spéciale en refuge avec des lits, des matelas un peu partout pour que les touristes puissent y passer la nuit. En tout, 160 abris comme celui-ci pour accueillir une partie des 41 000 touristes évacués. 9 000 ont été transférés par la route aussi jusqu'à Mérida, la capitale du Yucatan, tout proche. Et des touristes à 85% mexicains, apprend-on. Il faut protéger les voyageurs, mais aussi les récifs coralliens, nous explique Milenio. L'État de Quintana Roo a contracté une assurance spécifique et c'est une première mondiale.
Merci beaucoup Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première présenté par Tiziana Maron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui, ce mouvement de grève en Martinique qui bloque tous les sites de traitement des déchets.
Oui, un mouvement de grève qui a démarré hier et qui paralyse les 13 déchetteries et l'ensemble des centres de tri et d'enfouissement du territoire. Le ramassage des ordures risque donc d'être fortement compromis. Les salariés affiliés à l'USAM, l'Union des syndicats autonomes de Martinique, protestent contre le manque de moyens, pas assez d'engins, selon les grévistes, qui réclament également une vingtaine d'emplois supplémentaires. Hervé Johnny est le secrétaire de l'USAM. Il est joint par Stéphane Lupon de Martinique La Première.
Je ne sais pas si les collectes se font. En tout cas, si elles se font, elles ne seront pas déversées chez nous, puisque tous les sites qui accueillent en tout cas les publics ne peuvent pas le faire. Et les centres d'enfouissement aussi sont fermés. Il faut savoir que nous ne sommes pas les acteurs, hein, ni les responsables. Parce que je crois que depuis le 15 septembre, on est dans un dialogue social. Si aujourd'hui on arrive à bloquer, c'est que je pense qu'on nous a poussé à bout, ou certains jouent au petit jeu, ben la faute ne revient pas forcément à ceux qui sont les victimes. Hein. Parce que nous sommes aujourd'hui victimes d'une situation. On n'a pas crié.
Hervé Johnny, secrétaire de l'Union des syndicats autonomes avec Stéphane Lupon de Martinique La Première. Et on en sait un peu plus sur ce trafic de cocaïne présumé en Guyane. Le parquet de Fort-de-France, en charge de l'instruction, a décidé de communiquer. Je rappelle que jeudi dernier, après 4 mois d'enquête, les autorités ont saisi 594 kilos de cocaïne au port maritime de Guyane. On apprend entre autres que les suspects sont âgés de 26 à 56 ans. 3 sont nés en Guyane et un à Haïti. Ils sont incarcérés à Rémire-Montjoly en attendant leur transfert vers la Martinique pour être présentés devant un juge d'instruction. Et au chapitre des faits divers, ce spectaculaire braquage hier d'une bijouterie de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Plusieurs individus avec des masques de clown et lourdement armés se sont emparés de tous les bijoux et sont repartis en scooter. Les détails avec Eric Stimfling de Guadeloupe La Première.
Plusieurs individus affublés de masques de clown, selon les témoins sur place, ont fait irruption hier vers 14h dans la bijouterie Dany Laure, située au 46 de la rue Frébeau à Pointe-à-Pitre. Sous la menace de leurs armes, ils ont fait main basse sur l'ensemble des bijoux exposés après avoir cassé les vitres des présentoirs. Par chance, aucun coup de feu n'a été tiré, personne n'a été molesté ou blessé. Les individus ont ensuite pris la fuite en scooter, mais leur répit aura été de courte durée puisque moins de 2 heures après, 6 hommes étaient interpellés au cours d'une opération rondement menée sur plusieurs sites par la police judiciaire et avec l'assistance du RAID. Certains des mis en cause ont été arrêtés à leur domicile ou à proximité depuis plusieurs jours. Cette équipe de braqueurs faisait en effet l'objet de mesures de surveillance et de filature par les enquêteurs de la DIPJ. Une belle affaire réalisée en quasi flagrant délit. Une partie du butin ainsi qu'un scooter aurait d'ailleurs déjà été retrouvée, précise-t-on, de sources concordantes.
Eric Stimfling de Guadeloupe La Première et c'est la fin de cette édition. Bonne journée Anne.
Bonne journée, merci à vous Tiziana Maron pour ce journal Outre-mer Première. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 15h10 heure de Paris, 9h10 heure de Port-au-Prince. En attendant, n'oubliez pas les réseaux sociaux et le site de RFI. Vous allez sur podcast Journal d'Haïti et des Amériques pour nous retrouver tous les jours en rediffusion. Très très bonne journée à tous.
RFI, la sélection du mois.
Damso et Fally Ipupa.
Non, ça ne passe pas.
Jean-Louis Aubert. Bamba Wassoulou Groove. Synapson et Pongo.